Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cinociné, votre rendez-vous avec le cinéma, ici sous forme d'Extra Ball, notre délicat et savoureux petit détour, quelques minutes pour évoquer une série ou un film, en l'occurrence une Marvelerie, encore une, ou plutôt une co-Marvelerie, puisqu'on va causer de Venom, premier film consacré à 100% au célèbre symbiote antagoniste de Spider-Man que mon camarade Stéphane Moïsaki s'est vu. Salut Stéphane.
Salut Thomas.
Et dont on va parler, Cinociné Extra Ball spécial Venom, et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Venom, donc, Ruben Fleischer, le réalisateur de Zombieland, entre autres, derrière la caméra, et de Gangster Squad, super film, derrière la caméra, et dans le rôle titre, ce bon vieux Tom Hardy, qui incarne donc Eddie Brock, ce journaliste qui va se retrouver associé à un mystérieux symbiote extraterrestre qui va le doter de pouvoirs hors du commun. Mais ça ne va pas aller sans quelques petits tracas, étant donné notamment qu'Eddie slash Venom est un peu pourchassé par le patron d'une multinationale obsédée par le symbiote. Qu'est-ce que ça vaut tout ça, mon bon Stéphane?
C'est vraiment mauvais. Les critiques américaines le comparent à Catwoman. Moi, je trouve que c'est méchant pour Catwoman. Pas en fait parce que Catwoman est un bon film, c'est pas vrai.
Tout le monde s'en souvient.
Mais c'est un film dont on se rappelle.
Oui.
Parce qu'il y a vraiment beaucoup de moments totalement psychotroniques en fait dans Catwoman de Pitoff. Là, malheureusement, beaucoup moins. Il y a quand même quelques morceaux de bravoure, quoi. Mais avant peut-être d'expliquer pourquoi, parce que le truc avec c'est que nous on tape beaucoup sur les films Marvel ici. Je sais pas si on est les seuls dans la critique, parce que c'est pas vrai, le truc c'est que c'est une grosse constante qu'on nous reproche pas mal.
Oui.
Et peut-être pour les gens qui sont pas forcément versés dans la façon dont ces films là sont produits, faire une distinction en fait entre Marvel et Marvel, c'est-à-dire la façon dont certains personnages en fait appartiennent à proprement parler à Marvel, et en fait c'est eux qui les développent dans la logique du MCU, et la façon en fait dont des contrats du passé les empêchent en fait d'avoir certains persos,
quoi. Veulent,
et c'est notamment le cas de Venom qui pour pouvoir l'utiliser par exemple dans le MCU comme ils utilisent maintenant Spider-Man avec Tom Holland, ils doivent faire un contrat avec Sony. Voilà. C'est un peu le même problème avec Fox, sauf qu'ils n'ont pas passé ce contrat, puis ça va être réglé plus ou moins maintenant puisque Fox a été racheté par Disney.
Par Disney, oui.
Et voilà.
Pour les X-Men notamment.
Voilà. Et le truc avec ce Venom-là, c'est qu'il y a, esthétiquement parlant, absolument pas, mais il y a une espèce de volonté de le raccrocher à cette espèce d'univers qu'ils avaient essayé de créer à l'époque du The Amazing Spider-Man 2.
D'accord.
Alors, pas encore une fois sur le papier, en fait, si tu veux, mais tu sens que c'est un film en fait, qui est fait dans la même logique que ces films-là.
Qui avait été pensé à cette époque-là.
Voilà, et comme il devait faire de Sinister Six, etc. Et du coup, en premier lieu, déjà, tu as un premier souci, c'est que c'est un personnage extrêmement populaire.
Bien sûr.
Pour moi, j'ai toujours eu du mal à comprendre ça. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est créé par Todd McFarlane. Et Todd McFarlane, le créateur de Spawn, qui est aussi connu pour ça, je vais peut-être me faire arracher la tête dans les commentaires, mais voilà, c'est un peu le versant beauf du comic book pour moi, tu vois, c'est un peu...
C'est le versant gros sabot, quoi.
Voilà, et y a un côté, j'ai toujours trouvé le design du perso, la façon d'utiliser le symbiote, tout ça, etc., en fait, qui était une espèce de dérive, en fait, du Black Spidey, etc., c'est une espèce de version surmusclée, survitaminée, en fait, de Spider-Man en méchant, quoi. J'imagine, en fait, parce que je connais pas assez bien les comics pour le coup pour pousser la logique, quoi. J'ai vraiment connu ça au début. J'imagine donc qu'il y a une raison à en faire un espèce d'anti-héros principal. Et dans ce cadre-là, utiliser Tom Hardy, c'est pas forcément une mauvaise idée. Le problème, en fait, c'est que comme c'est un film un peu tout public, Et comme c'est le réalisateur de Zombieland et d'une autre comédie qui s'appelait 30 minutes maximum, je crois, qui est une comédie d'action qui est sortie direct en vidéo, je crois, chez nous, bah, y a beaucoup d'humour.
Ouais.
Et disons que Tom Hardy, déjà, n'est pas le talent le plus comique
on peut pas dire.
Qui soit. Même si dans l'absolu, il est plus ou moins bien employé comme ça dans Mad Max, par exemple, quand il y a des moments, des petits moments, mais c'est vraiment de l'humour très subtil,
c'est
en fait, très spécifique.
Ouais.
Voilà. Là, en fait, il y a des grosses scènes avec des gros sabots où t'as l'impression que Ruben Fleischer se dit « Ah, mais là, je fais ma scène à la Blake Edwards, tu vois ?» Et en fait, il lâche Tom Hardy en roue libre. Et donc, t'as notamment, parce que comme il découvre ses pouvoirs, en fait, il vient de se faire assimiler par Venom et par le symbiote, bah, il a faim tout le temps. Et du coup, en fait, il se retrouve dans les endroits où il se met à bouffer du cru, du machin, etc. etc. Et en fait, il retrouve sa dulcinée qu'il a perdue au début du film dans une scène... absolument aberrante de tout tombe à plat et en même temps c'est vraiment embarrassant pour Tom Hardy où il se retrouve à bouffer enfin la scène se termine dans un énorme aquarium en fait dans un restaurant où il est en train de bouffer des homards crus quoi. Et donc c'est des trucs comme ça. Effectivement, pourquoi ? C'est le problème. C'est aussi un film dont on sait que, parce que Tom Hardy l'a dit en promo,
qu'ils
ont coupé toutes les scènes qui l'intéressaient.
Lui était bien aimé.
Voilà, je sais pas trop en fait ce que ça voulait dire par rapport à
la qualité finale du film. Oui.
Voilà, c'est un film qui dure longtemps, hein, qui dure 1h50 quand même, mais qui est quand même malgré tout assez expéditif dans son récit. Et effectivement, alors ça a été dit aussi par les critiques américaines, et c'est plus ou moins vrai, en fait, on dirait. Moi, plus qu'un Catwoman, en fait, je rapprocherais ça plus d'un Daredevil ou un truc comme ça, un Daredevil, parce que vous me reprochez toujours de parler avec mon accent français, de 2002, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un vrai côté... 2002, 2003, je sais plus. Il y a un vrai côté... c'est un film d'un autre temps, extrêmement, mal branlé, impersonnel, avec un acteur qui n'est pas du tout à sa place dans ce personnage-là.
Dans ce personnage et dans ce rôle.
Et c'est un espèce de... Oui, c'est un film... alors, peut-être qu'en 2002, ça allait, ça passait, tu vois, mais... Enfin, moi, non, mais pour pas mal de critiques, c'était pas aussi décrié.
Oui.
Mais là, effectivement, en 2018, c'est très bizarre. Et en ce sens, en fait, je pense que ces films-là... Moi, le seul truc qui m'amuse profondément... c'est pas du tout lié au film, enfin si c'est lié au film dans l'absolu, c'est que je pense que ça fait profondément chier Kevin Feige en fait de voir ces films se faire, même si j'imagine qu'en grand calculateur il doit se dire qu'il va récupérer à un moment donné
lui rapportera
le bébé, mais ça je pense qu'il se le dit avec tous les persos Marvel finalement qu'il voudra utiliser. Et voilà, moi j'ai au moment où on parle, en fait, le film n'est pas encore sorti aux États-Unis. Il y a quand même un gros tracking autour du film. Hein. C'est quand même 65 millions de dollars qu'ils annoncent pour le premier week-end. Donc, vous saurez quand vous écouterez l'émission. Nous, on ne sait pas encore. Moi, j'ai du mal à y croire. J'ai vraiment du mal à croire que c'est un film qui ne va pas s'écrouler littéralement pendant son premier week-end parce que je ne vois pas comment les spectateurs, à part si tu es un gamin de 8 ans, effectivement, et que tu gobes à peu près tout ce qu'on te file à cet âge-là. Comme c'était mon cas, c'est pas du tout un jugement. À moins que ça soit ça, en fait, je vois pas en fait ce qui peut convenir aux gens dans ce spectacle-là. Et c'est aussi la démonstration que oui, Sony et notamment Avi Arad en fait et Amy Pascal derrière en fait ces films-là ne savent littéralement pas comment traiter tout ce qui touche à Spider-Man en fait aujourd'hui parce que. Bah parce que fondamentalement, quand ils ont fait Spider-Man en 2002, c'était la même équipe. Hein. C'était pas Amy Pascal, je suis pas sûr qu'elle était là, mais c'était Avi Arad. Bah fondamentalement, ils avaient un cinéaste derrière.
Oui.
Ils avaient un Sam Raimi.
Sur Sam Raimi.
Voilà. Et du coup, en fait, c'est la raison pour laquelle ces films-là aussi ont été un carton. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu avais la bonne personne pour adapter le bon personnage à la bonne époque. Là, c'est pas du tout le cas. Et fondamentalement, voilà, t'as une scène par exemple, parce que bon, t'as un peu d'action, mais pas beaucoup. Et en fait, les effets spéciaux, pour parler de l'adaptation en soi de Venom, du personnage, je sais que par exemple, son apparition a été extrêmement décriée dans Spider-Man 3. C'est un personnage qui a été vraiment calé aux chausse-pieds dans le scénario de Spider-Man 3, ça se ressent. Moi, le gros problème que j'ai avec ce personnage-là dans Spider-Man 3, c'est pas tant le personnage de Venom, le design. La façon dont on l'intègre dans les scènes d'action à la fin, mais vraiment l'interprète Topher Grace, qui est lamentable en fait dans le film, quoi.
That's Seventies Show.
Voilà, qui est nul en fait dans le rôle d'Eddie Brock. Oui. Et là, en fait, mais malgré tout, je trouvais que le design en termes d'effets spéciaux, ça se posait là, quoi. Ouais. Là, je trouve que, enfin, ça va. Je pense que, enfin, j'espère en tout cas, que ça va peut-être remettre un peu de lumière sur Spider-Man 3 et montrer que finalement tout est relatif, tu vois, et que le personnage était plus ou moins quand même, en tout cas en termes de stylistique, et en termes visuels et en termes, voilà, était mieux adapté que là, parce que t'as notamment un combat à la fin. Alors entre Venom et Riot, qui est un autre personnage de symbiote en fait, et t'as un combat en fait, mais qui renvoie, enfin incompréhensible en fait, littéralement incompréhensible parce que c'est que du numérique et c'est un fatras de d'encre noire en fait qui s'entrechoque, quoi, et ça renvoie un peu au combat final de Hulk de Ang Lee. qui était pareil, imbitable en fait. C'était
complètement
Hulk qui se battait contre une espèce qu'on perd, mais qui était une espèce de force, enfin pas un pec cosmique, je sais pas ce que c'était exactement, mais c'était tellement bizarre. Incompréhensible, tu savais pas trop ce qui se passait, quoi. Très conceptuel. Mais là, tu sens que chez Ang Lee, c'était fait exprès. Alors, mais bon, ça marchait pas, mais c'était fait exprès. Alors que là, tu sens que c'est juste en fait un type qui sait pas gérer ça, quoi. Et les effets spéciaux qui se démerdent avec ce qu'ils ont à faire, quoi. Donc voilà. C'est un film qui est, alors voilà, c'est un film qui est vraiment tiré par le bas par tous ces choix en fait, dont j'ai parlé, c'est-à-dire je pense en premier lieu Tom Hardy ne colle pas vraiment au rôle, en tout cas dans la façon dont il essaye de le décrire. T'as quand même l'impression de voir un pouilleux en fait pendant tout le film, ce qui pose pas de problème quand c'est Mad Max, mais quand c'est
Venom,
quand c'est Venom,
Brock,
un personnage quand même
censé être un journaliste d'investigation,
voilà, ça marche pas trop. T'as beaucoup, alors les scènes d'action, quand je disais, voilà, t'en as une autre, t'as une poursuite en fait dans les rues de San Francisco qui sont, c'est la seconde équipe et ça se voit en fait comme le nez au milieu de la figure, avec plein de plans d'un seul coup au ras du bitume, machin, etc. Mais qui pareil, en fait, elle est montée de manière complètement incompréhensible. C'est Daredevil, quoi, je te dis, c'est vraiment ces scènes-là, quoi.
Sans Colin Farrell.
Voilà, et sans Colin Farrell, sans Ben Affleck. Et après, une espèce de scénar qui pose les bases, mais qui pose pas grand chose, et qui en plus essaye à un moment donné se rappeler en cours de route qu'il faut créer un univers autour de ça. Ouais. Et donc, ils se permettent deux easter eggs. Alors, une qui est de toute évidence connectée au film. Donc, je laisse la surprise aux gens, si tant est que ce film-là existera, si on voit une suite. Et un autre easter egg qui est lié aux dessins animés qui vont sortir à Noël, là, Spider-Man Into the Spider-Verse, je sais pas quoi, qui n'a l'air d'avoir littéralement aucun
rien
rapport, en tout cas il ne le colle pas du tout à Venom, mais qui, bon, enfin voilà, moi j'ai un gros problème avec l'animation de ce que je vois pour l'instant, mais qui pourrait comment dire, être leur porte de sortie pour justement garder cet univers chez Sony, et le développer un peu mieux, quoi. Moi, je suis pas super convaincu par le truc. Donc voilà. Après, que dire d'autre? Après, si vous avez vraiment envie de vous taper tous les films de super-héros, entre guillemets, ou toutes les adaptations de comic book qui passent, vous irez voir Venom,
voilà,
quoi.
Sinon, vous aurez peut-être autre chose à faire.
Ouais, et puis, vous pouvez. Enfin, je pense qu'en fait, tu peux vraiment zapper le film. Hein. C'est, on dirait une série télé. on dirait un truc de série télé. Enfin, moi, les Marvel de Netflix, ce que j'en ai vu, c'est pareil. Je trouve ça laid comme c'est pas permis, très peu adapté. Là, c'est la même chose, mais avec du numérique. Donc,
très bien.
Donc voilà.
Donc Venom, voilà. En ce moment au cinéma, si vous avez besoin de vous abriter de la pluie, par exemple, ça peut servir. Mais sinon,
il paraît qu'il fait froid cette semaine.
Voilà. Donc sinon, il n'y a pas beaucoup plus d'utilité que ça. Merci beaucoup Stéphane. Merci à Quentin à la technique. À l'antenne, pareil pour l'accueil. Binge.audio pour toutes les infos utiles. Et puis on vous dit à très vite.
Binge.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, that, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.